Bonjour. Un hôtel de luxe assailli par un commando terroriste à Kaboul. 12 heures de cauchemar à l'intercontinental de la capitale afghane où nous retrouverons Sonia Ghezali dès le début de ce journal. Trop risqué et donc reporté au mois de décembre la tournée au Proche-Orient de Mike Pence, le vice-président américain. Cette tournée a bien démarré hier en Égypte dans un climat qui reste très tendu sur fond de position américaine jugée trop pro-israélienne par les pays arabes. En Allemagne, le sort d'Angela Merkel est entre les mains des délégués du SPD, les sociaux-démocrates vote cet après-midi pour ou contre une nouvelle grande coalition de gouvernement. L'issue du vote est encore loin d'être certaine, nous dira Cyril Sauvageau. Nous entendrons également le socialiste Luc Carvounas, vice-président du comité de candidature française pour organiser l'exposition universelle de 2025. Une candidature retirée par Édouard Philippe qui évoque un manque de financement. Hommage enfin à Paul Bocuse avec Alain Kruger qui évoquera le grand chef disparu hier dans son émission On ne parle pas la bouche pleine à midi sur France Culture. Nuit de cauchemar donc dans les étages d'un hôtel 5 étoiles à Kaboul. L'intercontinental et sa clientèle de riches étrangers ont été la cible d'un commando terroriste. Dès hier soir, explosions, fusillades et prises d'otages. Avant que les forces de sécurité afghanes ne délogent finalement les derniers assaillants au petit matin, on dénombre au moins 6 morts. Le récit depuis Kaboul de la correspondante de RFI, Sonia Ghezali.
Des blessés sortent sur des civières, témoignages de résidents du quartier de Kaboul dans lequel se trouve l'hôtel intercontinental. On voyait encore ce matin des flammes s'échapper des fenêtres du sixième et dernier étage de cet hôtel 5 étoiles. Des personnes étaient suspendues au balcon des fenêtres. Certaines sont tombées dans le vide sous les yeux des passants et des journalistes nombreux sur place. Images filmées et retransmises en direct par les chaînes de télévision locales. Un insurgé s'était retranché dans une chambre avec plusieurs otages, des Afghans et des étrangers, menaçant de les tuer. Cette attaque a donc duré près de 12 heures. 4 insurgés avaient lancé leur assaut dès hier soir. Ils ont donc tous été abattus. Il n'y a pas encore eu de revendication, mais il faut rappeler qu'en juin 2011, une attaque avait déjà été lancée contre cet hôtel, attaque revendiquée par les talibans. Mais aujourd'hui se pose également la question sécuritaire, puisqu'une nouvelle société privée de sécurité avait la responsabilité de cet hôtel depuis 3 semaines seulement. Le ministère de l'Intérieur afghan a annoncé l'ouverture d'une enquête.
Sonia Ghezali de RFI pour France Culture à Kaboul. C'est une offensive particulièrement massive qu'a lancée hier la Turquie en territoire syrien contre la poche d'Afrin qui est contrôlée par les rebelles kurdes. Ankara bombarde le secteur et soutient au sol des combattants syriens. On compte déjà au moins 10 morts pour la plupart des civils à Afrin. Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne cache pas sa volonté de chasser de sa frontière sud toutes les positions kurdes côté syrien. Difficile de ne pas sentir le climat de tension cette fois en Égypte hier au premier jour de la tournée proche-orientale de Mike Pence, le vice-président américain qui rencontrait le président égyptien Al-Sisi avant de se rendre en Jordanie aujourd'hui. Tournée qui avait été annulée en décembre quand Donald Trump avait déclenché la colère dans la région en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. La colère est loin d'être retombée depuis. Le président palestinien Mahmoud Abbas a refusé par exemple de rencontrer Mike Pence. Correspondance depuis le Caire de François Humferkat.
Les Palestiniens ne sont pas les seuls à avoir annulé la rencontre prévue avec le vice-président américain lors de sa tournée au Moyen-Orient. En Égypte, le grand imam d'Al-Azhar et le patriarche copte Tawadros II ont fait savoir mi-décembre qu'ils n'accepteraient pas de s'entretenir avec Mike Pence. La cause, la politique américaine vis-à-vis du conflit israélo-arabe. Impossible en revanche pour le président égyptien de se brouiller avec les États-Unis qui fournissent une aide militaire d'$1,3 milliard par an à l'Égypte. La question palestinienne n'est plus depuis longtemps une ligne rouge pour le Raïs. Alors devant les caméras, aucun des sujets sensibles n'a été abordé par les deux hommes qui se sont contentés de saluer une amitié forte et une volonté de se battre ensemble contre le terrorisme. Les reporters américains embarqués dans le Air Force Two ont été surpris de se voir refuser l'accès au palais présidentiel, maintenus bloqués dans leur minibus. Ce n'est qu'à l'issue d'une longue négociation et d'une intervention du vice-président qu'ils ont pu se présenter devant les deux hommes. 9 petites minutes seulement. Les reporters américains voulaient notamment interroger le président égyptien sur la présence de 2 ressortissants états-uniens dans les geôles égyptiennes. Il n'en sera rien. En privé, les deux hommes ont évoqué la façon d'isoler la Corée du Nord, question très sensible car une partie de l'aide américaine avait été suspendue, notamment en raison de ventes d'armes du Caire à Pyongyang. Sur la Palestine, Mike Pence affirme que les États-Unis souhaitent le statu quo en ce qui concerne les lieux de culte, mais les Palestiniens demandent désormais que les États-Unis n'interviennent plus dans le processus de paix. La visite de Mike Pence au Moyen-Orient ne sera certainement pas suffisante pour détendre la situation.
Le vice-président américain qui rencontre donc aujourd'hui le roi de Jordanie, Abdallah II, avant de se rendre en Israël demain et mardi. Le sort de la crise politique en Allemagne, à présent, il est entre les mains des cadres du SPD. Ce sont eux, cet après-midi, qui vont voter pour ou contre la formation d'une nouvelle coalition de gouvernement, des sociaux-démocrates, donc avec Angela Merkel et les siens. L'enjeu est crucial pour toute l'Europe. Angela Merkel dépend de cette grande coalition pour se maintenir au pouvoir et la partie est loin d'être gagnée, Cyril Sauvageau.
Scénario numéro 1, les délégués du SPD font le choix de la raison. Malgré toute leur réticence, ils donnent leur feu vert à la grande coalition. Ce serait un soulagement pour Martin Schulz, qui joue son avenir à la tête du parti. Toute la semaine, le chef des sociaux-démocrates a labouré le terrain de fédération en fédération pour vendre l'accord trouvé avec Angela Merkel et vanter les avancées obtenues sur les retraites, l'éducation ou la réforme de la zone euro. Si le oui l'emporte, la phase concrète des négociations commencera dès demain avec l'objectif d'avoir un gouvernement en place d'ici la fin mars. Mais le scénario numéro 2, celui d'une victoire surprise du non, n'est pas à exclure, tant le parti social-démocrate est divisé avec une fracture inquiétante entre les militants de base et la direction. Chef de file des frondeurs, le leader des jeunes du SPD, Kevin Kühnert, espère faire pencher la balance du côté du non. Cela semble peu probable, mais s'il y parvient, alors tout est remis en question. Pas de coalition, pas de majorité. L'Allemagne s'achemine alors sans doute vers de nouvelles élections, synonyme de blocage politique pendant encore plusieurs mois.
Cyril Sauvageau à Berlin. 9h06 sur France Culture. Dans l'actualité française, la mobilisation des surveillants pénitentiaires qui va repartir de plus belle demain lundi. Les syndicats de la profession ont tous rejeté hier le projet d'accord qui avait été mis sur la table par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Depuis une semaine, les surveillants de prison multiplient les blocages dans les maisons d'arrêt pour protester contre des conditions de sécurité pas assez assurées, selon eux, avec les agressions de gardiens de prison qui se sont multipliées ces derniers jours. Mondial de rugby 2023, Jeux Olympique 2024, Exposition Universelle 2025, la France ne réalisera finalement pas le Grand Chelem. Édouard Philippe confirme ce matin dans le Journal du Dimanche qu'il va retirer la candidature française à l'organisation de cette Exposition Universelle de 2025, un projet qui était porté par les collectivités du sud-ouest parisien. Matignon évoque des fragilités budgétaires dans le dossier. La déception est donc énorme pour le vice-président du comité de candidature, le député socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas.
Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on a aujourd'hui un président de la République, Emmanuel Macron, qui faisait partie des premiers à être à nos côtés parce qu'il y croyait. Aujourd'hui, son Premier ministre, qui a démontré peu d'attirance sur le projet, nous lâche en rase campagne. Ce sont des milliers de communes qui aujourd'hui se sont engagées. Il y avait un engouement populaire, des sondages le démontraient, même à l'époque, plus grand pour les JO. Et de but en blanc, assez sèchement, on a cette reculade, on se retire sous des allures de « ça ne tiendra pas la route pour les aspects économiques et financiers », alors que justement, depuis le début, on a co-construit un projet qui n'aille pas taper dans la poche du contribuable et des Français. Par facilité, pour ne pas dire paresse politique, on coule un joli projet qui aurait pu nous faire entrer, nous la France, dans une belle décennie française avec le rugby, les JO et l'Expo.
Luc Carvounas, joint par Jérôme Collin. Et nous revenons à présent sur la mort de Paul Bocuse, le plus grand nom de la gastronomie française. S'il ne fallait en garder qu'un, le grand chef lyonnais, donc, était âgé de 91 ans. Il est décédé hier dans l'auberge où il était né, il y a donc 91 années. Fidélité aussi à cette cuisine française qu'il a portée et incarnée à travers le monde. Pour notre spécialiste de la bonne chère à France Culture, Alain Crugère, Paul Bocuse restera comme un pont entre la gastronomie traditionnelle du 19e siècle et ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine.
Je pense qu'il a donné un élan après la guerre. Il représentait une école de cuisine, une école internationale. Il correspondait à une certaine idée de la France gastronomique avec des plats, avec des sauces. Et ce théâtre de la bouffe qui était le lien entre les mères lyonnaises, hein, comme la mère Brasier, et les augustes grands chefs comme Auguste Escoffier. Monsieur Bocuse, c'était une figure qui se posait comme une borne kilométrique sur une route. nationale sur la National 7, mais c'était aussi la courroie de transmission entre des chefs moins médiatiques et les grands chefs qui sont arrivés avec la nouvelle cuisine de Saint-Drins jusqu'aux nouvelles générations seniors de Guy Savoie ou de Ducasse, qui sont un peu ses enfants.
Hommage à Paul Bocuse, donc par Alain Kruger, qui poursuivra cet hommage ce midi dans On ne parle pas, la bouche pleine sur France Culture avec le chef doublement étoilé Jean-Luc Tartarin. La météo, enfin, Météo France maintient 17 départements en vigilance orange ce dimanche et globalement le temps sera pluvieux sur tout le pays avec du soleil tout de même sur le quart sud-est. Les températures cet après-midi sont comprises entre 6 et 14 degrés d'est en ouest jusqu'à 17 autour de la Méditerranée.